Bonjour, messieurs, mesdames. Alors qu'à la fin du 19e siècle, le caractère rituel de la plupart des textes qui ont été transmis était hors de doute et que l'on admettait l'existence de la liturgie longue au moins de l'époque sassanide, pendant le 20e siècle, s'est établie la vision que les textes transmis étaient des fragments accidentels. La plupart d'entre eux continuent à être employés dans des rituels encore aujourd'hui. Mais ces textes n'auraient été employés rituellement que secondairement et l'arrangement des rituels serait une construction tardive. L'article de Kellens, que nous avons déjà mentionné plusieurs fois les autres jours, a rétabli les caractères rituels des textes avestiques. Ils sont les récitatifs de la liturgie et d'une collection de rituels mineurs. Ces rituels existaient déjà au moins à l'époque sassanide, indépendamment du Grand Avesta. Après l'article de Kellens, trois apports importants ont été faits à ce débat sur l'antiquité de la liturgie longue. En janvier 2007, Tremblay, lors des quatre séminaires qu'il a donnés ici au Collège de France, dans le cadre d'un cours de Kellens, a souligné le parallélisme entre les cursus rituels de la liturgie longue et les cursus rituels védiques. En premier lieu, le pressurage des soma haoma et sa consommation, ensuite l'offrande animale, puis la sortie du sacrifice qui inclut l'éloge du feu et la libation au sceau. Il a comparé en particulier la liturgie longue avec les derniers jours d'un sacrifice védique dont la célébration dure 5 jours, l'agnistoma. Les parallélismes sont évidents et sans doute pas fortuits. En 2009, dans un colloque sur la transmission de l'Avesta que j'ai organisé à Salamanque, Kellens a introduit un nouvel élément dans le débat. Les Yas décrivent à 3 reprises une cérémonie sacrificielle. Bien qu'il y ait quelques différences entre les 3 versions, la combinaison de ces 3 témoins fournit la preuve d'un cursus rituel aboutissant à la récitation de l'Avesta ancien. Le parallélisme est si étroit que Kellens est capable d'identifier les mouvements de ces cursus rituels avec quelques sections du récitatif de la liturgie longue actuelle. Il a reconnu aussi une mention de la sortie du sacrifice d'Arma Afriti, Atarsniyayisen et Absocher dans le Hadok Nas. Il semble donc évident que l'épine dorsale conceptuelle de la liturgie longue existait déjà lorsqu'on rédigeait encore des textes en avestique, les Yast et les Hadok Nas. En 2011, au colloque de la Societas Iranologica Europea à Cracovie, j'ai mis à jour un argument déjà signalé par Darmstadt, mais qui était tombé dans l'oubli. Le Nerangestan, un traité liturgique sassanide, recueille des instructions rituelles identiques à celles de nos manuscrits. Donc, la cérémonie existait déjà dans une forme similaire à l'actuelle, déjà au moment de la rédaction du Nerangestan. La date de cette œuvre est vraisemblablement proche de celle de la version canonique de la traduction par Levi Divideftar, que je date autour du début du VIe siècle. La comparaison systématique montre que les Nerang du Nerangestan sont très souvent identiques aux instructions contenues dans les manuscrits sadés iraniens, même dans les plus petits détails. Ainsi, le Nerangestan prouve l'existence d'une tradition d'enseignement rituel, incluant la description complète des cérémonies telles qu'elles apparaissent dans les manuscrits sadés. Ces descriptions ont existé très vraisemblablement de l'époque sassanide ou peut-être même auparavant, puisqu'il y a des versions en avestique de quelques instructions. De ce fait, il est aujourd'hui hors de doute que la liturgie longue zoroastrienne existait déjà à l'époque sassanide et même auparavant. Il y avait aussi à l'époque sassanide des descriptions de la cérémonie pour l'instruction des prêtres, incluant non seulement le récitatif, mais aussi des instructions pour la performance correcte du rituel. Au cours de cette conférence, je vais vous montrer d'une part qu'avant l'époque sassanide, il n'existait pas seulement l'épine dorsale conceptuelle de la liturgie longue, mais aussi le récitatif même de la liturgie qui avait déjà acquis sa forme actuelle ou une très similaire. Les textes avestiques récités dans la liturgie n'est pas une collection sassanide de textes selon un schéma rituel bien défini, comme le voudra Panaïno, mais une composition en langue avestique qui appartient à une époque durant laquelle on composait toujours d'autres textes en langue avestique. D'autre part, j'ai l'intention de montrer que déjà au temps de la composition, il n'existait pas seulement une liturgie longue, mais une variété rituelle considérable basée sur l'existence de deux formes fondamentales de la liturgie, la quotidienne, yasna, et la solennelle, visperat. Si la cérémonie standard a été considérée comme une création tardive, d'autres variantes de la liturgie attestées dans les manuscrits sont considérées comme encore plus tardives et donc n'ont reçu aucune attention. Pour finir, j'essayerai de donner une vision fluide et dynamique de la liturgie. Alors qu'une composition artificielle avec des textes résiduels aurait abouti à une cérémonie statique et dont le seul changement possible serait la dégénération d'une version originale, une liturgie vivante, célébrée durant plus de 2000 ans, ne peut être conçue qu'avec des variantes synchroniques autant qu'avec une évolution perceptible. Commençons par l'antiquité du récitatif. Le texte Pehlevi d'Inerangestan fait une description d'une cérémonie qui est presque identique à celle des manuscrits et de l'usage moderne. Les chapitres 28 à 33 du deuxième fragment d'Inerangestan demandent en avestique quel est le meilleur moment pour la satisfaction des articulations des gathas, de chacun des 5 divisions du jour. Après chaque réponse en avestique, vient un commentaire en Pehlevi dans lequel on décrit les cérémonies incluant la récitation des gathas que l'on célèbre pendant ces moments de jour. La description la plus longue est celle de la cérémonie célébrée pendant l'usagina, l'aurore. Après la description de la cérémonie préparatoire, le parakna, au paragraphe 28-31 commence celle de la cérémonie proprement dite. Les passages allant de Nerangestan 28-31 à 28-46 décrit avec d'abondants détails la cérémonie du visperat du Yasna 0 jusqu'à la fin du Yasna 27, telle qu'elle apparaît dans nos manuscrits. On trouve exactement les mêmes instructions rituelles accompagnant les mêmes récitatifs avestiques et dans les mêmes ordres que dans les manuscrits. Dans les handouts, c'est le point 1. J'ai fourni un tableau avec les textes complets d'Inerangestan, sauf quelques digressions qui sont signalées, et aussi les instructions rituelles et les textes avestiques comme elles apparaissent dans les manuscrits. La correspondance est parfaite. Puis, la description d'Inerangestan saute directement à une section de la fin de la liturgie, la section des sceaux, Bahre Yaban, une partie de l'absorbe. En fait, la Tarniyayisen et l'absorbeur de la fin du Yasna sont mentionnés plusieurs fois dans l'Enerangestan. En outre, bien que la plupart des prescriptions rituelles relatives à la célébration de la liturgie longue se trouvent dans la version Pehlevi d'Enerangestan, la version avestique n'en manque non plus. Une petite partie des instructions rituelles en avestique et des instructions pour la célébration de la liturgie longue, similaires aux instructions en Pehlevi que l'on trouve dans les manuscrits et dans les chapitres 28 à 33 d'Inerangestan. Il semble bien qu'il y avait une version avestique de la liturgie longue pour l'apprentissage, similaire à la version des manuscrits liturgiques, mais avec les instructions rituelles en avestique. Dans le troisième fragar, une instruction rituelle en avestique dit que les articulations matinales, Havana Yoratavo, pendant lesquelles on déploie les faisceaux, sont au nombre de 7. C'est-à-dire que le faisceau est déployé 7 fois lors de la célébration de la liturgie matinale. Les moments pour le déploiement sont indiqués par la mention du récitatif qui les accompagne. Les passages ont été identifiés par Kotwal et Kreyenburg dans leur édition de Nerangestan, c'est le point 2 du handout. Il y a 7 passages de la liturgie longue qui apparaissent dans le même ordre que dans les manuscrits, avec une exception mineure. Yasna 18.1 apparaît après Yasna 18.9. On mentionne de plus deux fois l'alternative de l'Ustabaiti Haiti ou la Spentamanyu Haiti. La première indique qu'on peut déployer les faisceaux pendant la première récitation d'un de ces deux haïti. La deuxième, doit être vraisemblablement comprise comme une référence à la récitation du Yasna 47 à la fin de la cérémonie, après Yasna 68. L'alternative est en accord avec l'indication du manuscrit K7B, selon lesquels Yasna 43 est récité au lieu de Yasna 47 ici dans la cérémonie dite de Homas. Il semble qu'à l'époque sassanide, si on déployait les faisceaux pendant les pentamans Yuhaiti, alors on récitait Yasna 47 après Yasna 68. Donc, quand cette instruction rituelle a été rédigée en avestique, la liturgie longue avait une forme très similaire à la forme actuelle depuis le début jusqu'à la fin et connaissait également au moins quelques signes des variations que nous trouvons plus tard. En effet, les manuscrits mentionnent encore les déploiements dans deux des sept places mentionnées par l'instruction avestique. D'autres instructions rituelles en avestique reproduisent exactement les récitatifs que nous connaissons et aussi dans les mêmes emplois rituels. J'en donnerai deux exemples, un du début de la cérémonie et un autre de la fin. Le chapitre d'une langue stand sur la consommation du tronc, une offrande sacrificielle, dit en avestique, c'est le point 3 du handout, que les aotars soient les premières à consommer la viande auprès de l'eau, et les aotars disent ces paroles. Fin de la cite. Ensuite, on reproduit en entier les textes de Yasna 8, 3 et 4. Donc, au moment de la composition de cette instruction rituelle avestique, les textes de Yasna 8, 3, 4 étaient identiques aux textes actuels et étaient déjà, comme il est aussi dans les manuscrits et dans la pratique moderne, les textes qui accompagnaient la consommation de l'offrande par les saotars pendant les drômes du début de Yasna. Notez que la traduction de ces textes dans le Nerangestan, la traduction Pehlevi de ces textes dans le Nerangestan, présente d'évidentes similitudes avec la traduction canonique que nous trouvons dans la traduction complète du Yasna, ce qui devrait nous faire repenser notre avis sur la chronologie relative de la traduction Pehlevi des textes avestiques. Voilà maintenant un exemple similaire, mais de la fin du Yasna. On a déjà vu qu'un des déploiements des faisceaux a lieu pendant la récitation de Yasna 63-1. Une instruction rituelle avestique dit, c'est le point 4 du handout, j'hésite, yeah, quand les aotars sacrifient au Ahura Mazda, il fait l'offrande à la moitié du faisceau. Quand il sacrifie au sang mortel bienfaisant, il fait l'offrande à l'avant du faisceau. Quand il récite Apo Ad Yazamaide, il fait l'offrande à l'extrême gauche du faisceau. Quand il récite Ashaunan Uranash Chafravashishcha Yazamaide, il fait l'offrande à l'extrême droit du faisceau. Pendant toutes les récitations du Jeune Hehatan, il fait l'offrande à la moitié du faisceau. Comme Kotval et Kreyenbrug l'ont reconnu, on décrit ici l'offrande au faisceau au Yasna 63-3. Aussi bien les textes que les instructions rituelles du passage avesti du Nerangestan correspondent exactement au texte de Yasna 63, exactement comme nous les connaissons dans les manuscrits, dans la pratique moderne. Dans les manuscrits de Visperat et ses variantes, on trouve une version différente. L'offrande se réalise dans une intercalation postérieure, c'est le point 5 du handout. Cette variante est aussi décrite dans le Nerangestan, bien qu'il y ait quelques petites différences. Notez pourtant que la variante n'est décrite que dans la version Pehlevi du Nerangestan, alors que la version de Yasna est décrite en avestique. Ces exemples de coïncidence totale entre les instructions rituelles en langue avestique contenues dans le Nerangestan et la cérémonie comprennent donc aussi bien la structure générale de la liturgie longue que des détails des passages concrets. Il devrait suffire pour définitivement mettre fin au débat sur l'antiquité de la cérémonie longue. Aujourd'hui, on ne peut plus douter que les récitatifs et les cursus rituels de la liturgie longue avaient acquis leur forme définitive à une période où l'avestique était encore une langue vivante, au moins parmi les clergés. Les récitatifs de la liturgie longue, sous la forme que nous connaissons, n'a pas été compilé à l'époque sassanide et encore moins après l'époque sassanide sur la base de quelques restes du grand Avesta. Elle est un produit des temps productifs de l'avestique. Mais voyons maintenant la variété liturgique et son antiquité. De la liturgie longue, nous sommes parvenus deux versions différentes qui partagent une vase commune, mais montrent un bon nombre de différences significatives. La variante simple, le yasna, est employée pour la récitation quotidienne et l'autre, le vesperat, pour des célébrations plus solennelles et complexes. L'idée que le vesperat est une création secondaire sur la base d'un yasna original semble trop naïve. Les deux variantes de la liturgie sont des versions parallèles qui ne sont vraisemblablement que les restes d'une variété liturgique plus vaste. Elles montrent d'une part d'importantes différences dans les récitatifs, mais aussi dans les cursus liturgiques, comme le verra plus tard. La divergence dans les récitatifs de la cérémonie est de différentes natures. On trouve des versions différentes avec des variations légères du même texte, des textes alternatifs, des additions de nature rituelle, c'est-à-dire conditionnées par variations rituelles par rapport à la cérémonie quotidienne, des natures performatives soulignant les divisions entre les sections de la cérémonie ou des natures exégétiques offrant des commentaires aux textes plus anciens de la liturgie, etc. Ces deux versions de la liturgie sont à la base d'autres variantes qui, comme on l'a déjà vu, sont à leur tour aussi anciennes, du moins quelques-unes. Ainsi, le yasna du matin au quotidien est à la base d'une cérémonie plus simple que les Nerangestan désignent comme le yasna mineur, yastikech. Les manuscrits témoignent d'une cérémonie de ce type, le yasna et rapidvin. La seule différence dans les récitatifs par les rapports à Yasna du matin sont une dédicace différente et de plus une version abrégée des listes des articulations avec mention seulement du rapid vina. Pour les cérémonies basées sur la version solennelle, la variété est beaucoup plus grande et les variantes comprennent des variations textuelles et rituelles significatives. La comparaison des témoins du Nerangestan et ceux des manuscrits donne l'impression que depuis l'époque sassanide, nous sommes devant un processus de réduction de la variété rituelle plutôt que de la création de nouvelles liturgies artificielles. Entre les Nerangestan sassanides et les manuscrits, on perçoit en effet une diminution de la variété rituelle. Et les manuscrits plus anciens montrent encore une variété plus vaste que les manuscrits plus récents. Ainsi, dans les manuscrits du XVIIIe siècle, la variété rituelle est réduite à une cérémonie quotidienne et une cérémonie solennelle qui est à la base de la cérémonie du Bidevdat. Au XVIIe siècle, les manuscrits du Vistashbiast et du Yasna Rapidvin sont encore relativement fréquents. Mais après, ils deviennent très rares et s'il y a des copies, sont presque tout œuvres des collectionneurs et pas destinées à l'usage liturgique. Les manuscrits cassettes du XIIIe siècle est le seul qui mentionne encore la cérémonie vesperale du Dohomas. Dans le Nerangestan, la variété liturgique est encore plus grande, c'est le point 6 du Hendraut. À deux reprises, le Nerangestan donne une liste hiérarchisée des variantes de la liturgie longue selon les proportions de l'eau et de lait dans la libation et selon le nombre de tiges pour les faisceaux. La liste est identique dans les deux passages. Deux cérémonies sont d'une catégorie mineure à la cérémonie solennelle, les petits yas, le yasikeh, ou le yastihavan, et le yastihavan, le yasna de matin au quotidien. Depuis, trois cérémonies se trouvent au même niveau, les visperat, les ekhomas et les hadok et ekhomas. Ces trois liturgies sont comparables aux cérémonies solennelles de nos manuscrits et se célèbrent comme elles avec 33 tiges pour les faisceaux. Ces trois, comme les trois suivantes, sont des variations de la cérémonie solennelle de base, les visperat. Il y a encore trois cérémonies pour lesquelles on emploie au moins 70 tiges pour les faisceaux, les dohomas, les dachomas et les davashdachomas. Finalement, la cérémonie la plus solennelle est le vesperat d'Artokarten que l'on célèbre avec les faisceaux de 551 tiges. Les instructions rituelles anabestiques du Nerangestan, au contraire de celles en Pechlevi, n'est donc pas des témoins indiscutables de la variété liturgique hors de deux types de cérémonies, la quotidienne et la solennelle, sauf la mention possible de la substitution de Yasna 47 par Yasna 43 à la fin du Yasna. Néanmoins, malgré le silence de la version avestique du Nerangestan, Il y a d'autres preuves de l'Antiquité, d'autres variantes de la liturgie, en particulier des cérémonies d'intercalation. Ce sont des cérémonies dans lesquelles quelques conversations entre Zarathoustra et Ahura Mazda sont intercalées entre les textes vyélavestiques. Les manuscrits en connaissent deux, le Videvdat et le Vistasbyast. Les textes de Pehlevi du Nerangestan en mentionnent encore d'autres, celle du Vayanyas et celle du Hadok. De cette dernière, ne nous est parvenue que la version exégétique, comparable à celle du Videvdat. Malheureusement, la version liturgique n'est pas attestée dans les manuscrits. Du Vayanyas, les manuscrits ne contiennent aucun témoin. Pourtant, la cérémonie solennelle nous a préservé un fragment qui documente son existence à l'époque ancienne. En effet, j'ai essayé de montrer il y a quelques années que la liste des articulations textuelles de la cérémonie solennelle appartenait originairement au Vayanyas et est devenue la liste canonique de Visperat. Justement, un passage du Hadok nous fournit une évidence additionnelle de l'existence ancienne des cérémonies d'intercalation et nous informe même sur les noms avestiques de ces cérémonies. Le passage en question a été récemment commenté par Kellens, l'horticologue de Salamanca, c'est à quoi on peut encore ajouter quelques informations. On raconte l'entretien de l'âme urbaine du défunt avec sa vision d'Aena. Un motif qui se répète dans toutes les cérémonies d'intercalation connues dans les points culminants du sacrifice, les Yasna 53, le moment rituel de l'union avec la vision. Il semble que cette union rende possible l'entretien avec Ahura Mazda et donc les cérémonies d'intercalation dans lesquelles l'entretien est reporté. En effet, l'entretien entre l'âme du défunt et sa vision est l'équivalent après la mort des entretiens entre l'âme du sacrifiant, les Aotars, et la vision dans les cérémonies d'intercalation. Par conséquent, la Daena, la vision, parle au défunt comme s'il était les Aotars. Le dialogue se développe comme suit, c'est le point 6 de handout. Tu te mettais à réciter les gathas, à sacrifier aux hommes, au bonheur et au feu d'Ahura Mazda et à choyer l'homme partisan de l'agencement qui vient de près ou de loin. Alors que j'étais aimé, tu m'as rendu plus aimé. Alors que j'étais belle, tu m'as rendu plus belle. Alors que j'étais admiré, tu m'as rendu plus admiré. Alors que j'étais assise en avant, tu m'as fait asseoir encore plus avant. Ce sont les choses que tu avais pensées, que tu avais dites et que tu avais faites. Ainsi, les hommes offrent désormais à moi, Ahura Mazda, les longs sacrifices et l'entretien. Yazente daregoyas timcha hampas timcha. Kellens a reconnu que les propositions participiales, titemete en, se réfèrent à la récitation des gathas et par la suite à la fin de la liturgie longue avec la mention de l'Apsocher, la Tachniyayisen et la Dharma Afriti. Les bons pensées, paroles et gestes qui rendent la vision encore plus belle et qui la font avancer sont justement la célébration de la liturgie longue. C'est la raison par laquelle les hommes continuent à célébrer cette liturgie et l'entretiennent. Daregoyas timcha hampas timcha. Cette désignation recouvre très vraisemblablement une cérémonie d'intercalation qui inclut l'entretien avec Ahura Mazda subséquent à la rencontre avec la vision. Il y a encore d'autres arguments pour l'antiquité des cérémonies d'intercalation, mais ceux deux devraient suffire à montrer qu'à l'époque productive avestique, il y avait déjà des cérémonies d'intercalation. À vrai dire, il me semble très vraisemblable que la plupart des phrases non avestiques récentes, ou même tous, aient été composées pour être récitées dans des cérémonies d'intercalation. À mon avis, les cérémonies d'intercalation ne sont pas des créations tardives et artificielles, mais si anciennes comme la liturgie même et les cadres rituels dans lesquels s'insérait tout le phrasna, une partie essentielle de ce qu'on vient désignant comme Avesta. Bien que la variation liturgique soit ancienne, c'est à partir de l'époque sassanide que nous avons des données suffisantes pour envisager l'ampleur réelle de la possibilité de variations rituelles dans la liturgie longue. La plupart des variantes de la cérémonie sont basées sur le vísperat et leur récitatif est essentiellement le même que celui du vísperat. Pourtant, il y a des variations dans les rituels qui impliquent aussi des changements dans les récitatifs et en outre des variations dans les récitatifs en dépendant des changements rituels ou dont la cause rituelle n'est pas évidente. Les différences dans les récitatifs entre ces variantes sont certes limitées. Le seul texte spécifique de chaque variante est une sorte de marque particulière qui se substitue à la mention de l'articulation du matin dans les yasna. Pour le reste, il y a des dédicaces spécifiques pour quelques cérémonies comme le yas de midi ou le vistas piast. Les changements les plus fréquents sont des adaptations banales de la liste d'articulation temporelle au moment de la célébration. Pourtant, il y a aussi quelques répétitions et arrangements alternatifs des textes qui permettent de différencier des variations de la liturgie longue. Ainsi, la cérémonie de Bidevdat, dans sa version indienne, répète une partie de la section du Vispera de la Huna Vaitikata après l'Ustavaiti et une partie de la section du Vispera de Yajnahastha Haptanhaiti après la récitation de l'Aryaman Isha. Les variations textuelles les plus intéressantes sont les arrangements alternatifs du corpus biélavestique. Comme observé déjà d'Armesteta et l'a répété plus tard Hintze, la disposition du corpus biélavestique tel qu'il apparaît dans les Dayasna est au moins aussi ancien que le 10e fragar de Bidevdat. Les articulations textuelles du Vísperat confirment aussi l'antiquité de cette disposition. Mais celle-ci n'est pas la seule disposition possible. Les yast, comme l'a souligné Kellens, attestent la récitation au centre de la liturgie des combinaisons différentes, soit les sangata, soit la hunavairya avec les yasna haptanhaiti et l'efsuso mantra, soit tout simplement la hunavairya. C'est aussi bien connu que dans la cérémonie solennelle, on répète les yasna haptanhaiti entre la bohoksatra et la vahistoitigata, vraisemblablement pour des raisons rituelles. À d'autres occasions, j'ai déjà montré l'arrangement différent du début des gata dans les manuscrits liturgiques et exégétiques des yasna, ce qui révèle vraisemblablement aussi deux variantes différentes de la liturgie. De toutes les variantes majeures de la cérémonie longue, ce qui mentionne le nerangestan, nous ne connaissons avec quelques détails que les dohomas, parce que les plus anciens manuscrits liturgiques, K7B, mentionnent encore ces particularités. Dans cette cérémonie, les textes biélavestiques apparaissent dans une autre disposition. Selon le Nerangestan, le Degata avec quatre haitis, c'est-à-dire l'Ustavaiti et le Spentamanyugata, échangent leur position. Les manuscrits cassettes gardent le silence sur cet aspect. En outre, la Vahistoitigata et l'Aryaman Isya sont récités deux fois en entière et chaque fois, après leur récitation, on introduit une dédicace. À Zarathustra après la Vahistoiti et à son fils Isatvastra après l'Aryaman Isya. On peut voir les différentes distributions des textes biélavestiques et comparer les deux versions de la fin des Gata selon la cérémonie solennelle standard et selon les Dohomas dans les Hendaos, c'est le point 8 et 9. On voit donc que la disposition du corpus biélavestique que reproduisent nos éditions est celle de la cérémonie quotidienne, mais qu'il y avait également plusieurs arrangements alternatifs dont ne nous sont parvenus que deux ou trois variantes. En outre, il y a des variations rituelles entre la cérémonie quotidienne et la solennelle, et même entre les différentes variantes de la cérémonie solennelle. Les différences les plus notables entre les deux variantes principales concernent les offrandes, celle du tronc et l'offrande animale au feu. Sur la deuxième, les manuscrits et la Nerangestan gardent le silence, mais c'est possible que la répétition du Yasna Haptanhaiti dans la version solennelle après le Yasna 51 soit la conséquence d'une deuxième offrande animale. La répétition de l'offrande du dron dans les cérémonies solennelles est par contre bien attestée dans les manuscrits et conservée dans la pratique moderne, alors que l'offrande du dron n'est célébrée qu'une seule fois dans la cérémonie quotidienne et deux fois dans la cérémonie solennelle. La première offrande se situe au début du yasna, comme dans la cérémonie quotidienne, et la deuxième après le yasna 59. Dans celle-ci, il n'y a pas consommation de l'offrande. Pour les Nérangestans, la célébration de deux Schröstrom est le cursus rituel habituel, alors qu'une seule célébration est une particularité du yajna du matin. La raison pour la répétition finale du Schröstrom dans la cérémonie solennelle semble claire. Kellens a montré dans le quatrième volume de ses études à Bestig et Masdéan le parallélisme entre les préliminaires et la sortie du sacrifice. La répétition du Schröstrom dans la cérémonie solennelle souligne ce parallélisme. L'offrande du Schröstrom avant la consommation du Haoma et l'investiture des officiants trouve un parallèle dans le Schröstrom final après le retour des officiants à la condition matérielle, la désacralisation des feux et le transfert du Mizda au commandataire du sacrifice. La place altérée et la variation rituelle ont bien sûr des conséquences dans les récitatifs. L'absence de Yajna 8.2.4, qui est le texte de la consommation, est banale. Si on ne consomme pas les drômes, on ne récite pas les textes qui accompagnent la consommation. Bon. Mais il y a beaucoup d'autres changements textuels qui méritent une analyse que je ne peux donner ici que superficiellement. Le récitatif du deuxième Schröstrom suit les 6 premières strophes du Yajna 62. Le Yajna 62 ou Atars Niyayisen peut être divisé en 3 parties. La partie finale, depuis Yajna 62-11, appartient à prédire à l'Absorger. Le reste semble consister en 2 parties différenciées. Dans les premières strophes du Yajna 62-1-6, on s'adresse au feu à la première personne, alors que dans la deuxième partie, des strophes 7-10, on s'adresse à lui à la troisième personne et un vocatif espitama semble indiquer que les mots sont dirigés vers Zarathoustra. Dans les Yajna, les deux morceaux apparaissent ensemble et constituent l'Atars Niyayisen. Pourtant, dans la cérémonie solennelle, la première section est récitée entre les Yajna 59 et le deuxième Schröstrom. La deuxième section, quant à elle, apparaît à la même place que dans les Yajna. Dans les récitatifs du deuxième Schröstrom, le rôle du feu est aussi souligné par la substitution des Yajna 37, qui apparaît dans les premiers Schröstrom, par les Yajna 36, la section de la sacralisation du feu. Ainsi, s'établit également un rapport avec la fin du Psusomantra. Les connexions avec les Yajna 59 se font évidentes dans les récitations presque identiques dans les deux textes d'une variante de Yajna 6 qui finit par la récitation de Yajna 26 ou Petit Fravardigandjast et aussi par la citation de Yajna 52. Avec cette citation, le deuxième Schröstrom réintroduit la déesse Ashi à la fin du Yajna et souligne son apparition avec un texte exégétique typique du Visperat qui n'est pas attesté ailleurs. C'est Bahishtam Ashin Aogemada Echa Usamahicha Visamada Echa qui combine la mention de la meilleure Ashi avec une citation de l'estrophe finale du Yajna Hapnan Haiti. Ensuite, il cite Yajna 35, 2 et 5 et l'accompagne d'un nouveau passage exégétique du type vespéradique qui n'est pas non plus attesté ailleurs. Nous sacrifions au pouvoir du possesseur du meilleur pouvoir qui est l'arrangeur Ahura Mazda. Alors, le récitatif du deuxième Schröstrom n'est pas une répétition mécanique du premier, mais un texte complexe, rempli de connexions avec les deux textes qui les précèdent, le Psusomantra et le Yajna 59, et centré sur les rôles du feu et d'Ashi à la fin du sacrifice. Pourtant, ce texte, comme à toutes les variantes solennelles de la liturgie longue, n'a été jamais édité parce qu'il n'apparaît pas dans les manuscrits Pehlevi du Visperat sur lesquels sont basées nos éditions. Le pressurage du Haoma est identique dans la cérémonie quotidienne et la solennelle standard, mais on peut reconnaître encore un bon nombre de variations à cet égard entre les différentes variantes solennelles. Cette variabilité n'est témoignée que partiellement par les manuscrits, mais clairement par les Nérangestans. Dans la plupart des manuscrits et dans la pratique moderne, on fait un pressurage pendant les préliminaires de la cérémonie et d'autres pendant sa célébration. Seul le haoma pressuré avant la cérémonie est consommé par les prêtres à deux reprises, pendant le yajna 10-14 et une deuxième fois au yajna 11-10, qui précède la consécration sacerdotale. Après la consommation, le haoma est pressuré encore une deuxième fois, au moins deux fois, pardon. La première, qui revêt une importance spéciale, est connue comme Homas, la section qui va du Yasna 22 à Yasna 27-13. Le Haoma est pressuré pendant les trois premières récitations des quatre Ahunavairyo du Yasna 27-3. Le troisième pressurage a lieu pendant la récitation de la deuxième partie de l'Ahunavaitikata, entre les Yasna 31 et 33. Il est décrit aussi dans le Nerangestan, mais comme spécifique de la cérémonie Ekhomas. Dans nos manuscrits, par contre, il est célébré dans toutes les variantes de la liturgie longue. Mais pourquoi pressurer le haoma alors qu'il ne sera pas consommé? Kellens a émis l'hypothèse que c'est pour avoir du haoma préparé pour d'autres cérémonies. Cela serait bienvenu dans les fêtes pendant lesquelles plusieurs liturgies sont célébrées dans la même journée. Mais à mon avis, celle-ci n'est pas la fonction fondamentale. Le dépressurage du haoma, qui n'est pas consommé, appartient aussi au yasna quotidien, qui n'est pas suivi par d'autres célébrations haomiques, de sorte qu'on n'a pas besoin d'un excédent de haoma. Le haoma est pressuré surtout pour la même cérémonie et non pour des cérémonies subséquentes. Dharmastheta a déjà noté que la fonction du haoma n'est pas uniquement la consommation, mais qu'on l'emploie aussi pour la libation. En effet, l'élivation de haoma avec les grenadières, les saothra haomavaiti, gaomavaiti, hadanae patavaiti, sont employés encore aujourd'hui et connectés avec l'élivation au son. Ce n'est pas accidentel si la première strophe des trois haïti du homas, yasna 22, yasna 24 et 25, présente justement ces trois éléments, le haoma, les lait consacré et les branches de grenadières, comme préparés. Et si la deuxième strophe de ce haïti réunit les trois dans la libation pour les bons hauts. Dans la cérémonie solennelle, justement après les premières libations de l'absoheur, on récite une variante de Yasna 25-3 dans laquelle la mention du haoma, du lait, et du des grenadiers et des offrandes liquides est substituée justement par haomen ashaya hutem, le haoma pressuré selon l'agencement. Une expression qui, dans ses formes, n'est pas attestée ailleurs. Donc, les pressurages du haoma ne sont pas connectés exclusivement avec sa consommation, mais aussi avec la libation, et tout d'abord avec la libation au seau à la fin du yasna. De plus, les pressurages du haoma a aussi une fonction protectrice, qui est parfaitement perceptible dans les troisièmes pressurages, où les coupes aux mortières accompagnent toujours l'amont les mots drouge. On frappe la drouge en même temps qu'on frappe les mortières. Puisque la fonction du pressurage n'est pas exclusivement la consommation ni la production d'excédents haomiques, donc le nombre de pressurages peut être augmenté selon l'importance de la cérémonie. Ainsi, le Nerangestan utilise le nombre de homages qu'on célèbre pendant en liturgie comme un critère classificatoire. Il parle de la cérémonie avec deux homages, la cérémonie avec 10 homages et la cérémonie avec 12 homages. Le Nerangestan et les manuscrits K7b nous fournissent dans la description des deux homages la preuve que cette désignation indique vraiment le nombre de homages que l'on célébrait dans ces liturgies. Le 2 décrivent les mêmes cursus rituels pour les deux homages. Il y a en fait deux homages. Les premières à sa place habituelle entre les Vayanyas et le début des Katas, et en deuxième, entre la récitation du premier Yasna Haptan Haiti et la section du Visperat qui le suit. Là, on récite un nouveau homas dans la variante propre du Visperat, mais quelques exceptions sont adaptées à sa nouvelle position. Dans les handouts, c'est le point 10, j'ai fourni une comparaison de la description du Nerangestan et des manuscrits K7b. Pour les Davasdah Homas, le Nerangestan mentionne de plus les pressurages du Haoma pendant chacun des six fragars. Le passage n'est pas facile à interpréter, mais il est attirant d'y reconnaître une mention des six fragars ou intercalations du Vayanyas mentionnées dans la liste des articulations textuelles de Visperat. On voit donc qu'encore dans la pratique rituelle sassanide, les pressurages de Haoma étaient changeants. Ils pouvaient être célébrés plus ou moins fois dans une célébration, ce qui avait pour résultat des cérémonies différentes avec changements rituels et du récitatif. Les variations synchroniques de la liturgie nous donnent une vision dynamique d'elle. Elle n'apparaît pas comme une création artificielle et donne invariable après sa composition ou compilation. Elle est plutôt le résultat d'un long processus d'interaction entre la nécessaire continuité rituelle et les changements délibérés ou même accidentels. Malgré la continuité que nous avons établie entre la liturgie telle qu'elle est décrite par les instructions rituelles avestiques et Pihlevidin et Langestan et les versions de la liturgie dans les manuscrits, quelques différences significatives entre elles montrent qu'il n'y a pas eu seulement variation synchronique, mais aussi évolution, comme on peut s'y attendre avec une liturgie vivante. En effet, bien que les instructions rituelles avestiques d'Inerangestan connaissent une version très similaire de la liturgie à la nôtre, et on constate aussi des différences. Ainsi, nous avons déjà mentionné que dans les sept articulations pour le déploiement du faisceau, par exemple, le Yajna 18-9 précédait le Yajna 18-1. Mais c'est grâce à la profusion des données sur la liturgie longue dans l'Inerangestan Pehlevi que nous pouvons percevoir avec clarté quelques évolutions de la liturgie longue. Les deux changements les plus notables entre la version d'Inerangestan et celle des manuscrits sont la substitution du collège sacerdotal ancien par un duo composé du zot et du raspic et la disparition de l'offrande animale. La première n'a pas de conséquences textuelles. À l'époque de la rédaction de Nerangestan, les collèges sacrificiels étaient encore composés par 8 prêtres aux fonctions bien différenciées. Dans les manuscrits, toutes ces fonctions sont assumées par l'officiant auxiliaire, le raspic. Ce changement n'a pas de conséquences textuelles, bien que la récitation de quelques textes corresponde à des officiants particuliers, le raspic prend, selon les manuscrits liturgiques, physiquement la place de cet officiant et récite là les textes correspondants. Ainsi, dans la consécration des différents prêtres, le raspic court d'une place à l'autre et récite lui-même tous les textes, mais cela n'implique aucun changement textuel. L'abandon de l'offrande animale au fait, par contre, a eu des conséquences pour les récitatifs. Bien que les textes récités pendant l'offrande au feu, les Yajna Haptan Haiti, continuent à être récités, d'autres textes associés au sacrifice animal ont été abandonnés avec les rites. Le Nerangestan reproduit encore les textes pour l'installation sacrificielle de l'officiant chargé de conduire la victime sacrificielle. Pasbransahem Astaya, Yemet à la place rituelle à l'officiant chargé d'amener l'animal, qui est parallèle à celle de la consécration du reste des officiels au Vispera 3. Ce passage est récité, selon le Nerangestan, justement au moment du début du Yajna Haptan Haiti, Patbun Iyast. Pendant la récitation des Katas, il le dit, la conduite de la victime est interdite. Ensuite, il la couche sur son côté droit, l'attache et finalement, pendant la récitation des trois Ahuna Vairyo, il la frappe avec les maillets et au moment d'Irsathremcha du troisième Ahuna Vairyo, il lui plante le couteau. On notera que la récitation des trois Ahuna Vairyo est unique et semble être exclusive pour le sacrifice animal. Je vous rappelle que les hommes est pressuré pendant la récitation des trois des quatre Ahuna Vairyo de Yajna 27-3. On met ainsi en rapport les pressurages et les sacrifices animaux qui les précèdent. Avec le mot Jan Hamcha, dit Jan Hehatan antérieur au Yajna Haptan Haiti, l'officiant qui est en face du feu récite un texte inconnu qui commence avec Aetaoste Atare Zaothrao. Ces offrandes sont pour toi au feu. Avec la disparition de ces rites, les textes pour l'installation de l'officiant chargé de conduire et immoler la victime, la récitation des trois Ahuna Vairyo et les récitatifs de la présentation de l'offrande au feu ont disparu de la liturgie. Mais les différences ne se limitent pas à des changements brusques comme l'abandon de l'offrande animale au feu. Il y a de nombreux changements de détails sur lesquels je ne vais pas m'arrêter maintenant. on trouve aussi des différences purement textuelles. Ainsi, le Nelangestan mentionne dans la description du Yajna du matin une récitation du Yajna Abayu complet en entière après Yajna 8-8 qui manque dans les manuscrits et dans la pratique moderne. Il est aussi très intéressant de constater que l'on trouve déjà dans le Nelangestan deux preuves de discussion textuelle entre prêtres, très vraisemblablement antérieures à la transmission écrite. Ainsi, le Nelangestan recueille une dispute sur la dédicace correcte pour la célébration du Yajna Rapidvin. La version des manuscrits que nous avons est plus proche de l'alternative non canonique de Nelangestan, mais néanmoins différente des deux que le Nelangestan nous offre. De la même façon, que l'on constate des changements rituels et du récitatif entre les témoins du Nelangestan et celui des manuscrits, on voit aussi des changements entre les manuscrits indiens et les iraniens. Il semble que malgré les fréquents contacts entre les deux communautés et malgré les consultations de la communauté indienne auprès de l'iranienne, les deux communautés ont toujours conservé une certaine indépendance. L'Iran est resté jusqu'au XIXe siècle libre de l'influence rituelle indienne. À partir de ces dates, pourtant, la direction des influences a changé drastiquement. Le prestige est resté jusqu'au XIXe siècle dans la communauté iranienne et donc les changements indiens n'ont pas affecté la liturgie iranienne. Le résultat est que, malgré l'indéniable uniformité de la liturgie indienne et l'iranienne, l'indienne montre quelques innovations dont l'iranienne est restée dispensée. Les manuscrits iraniens nous offrent donc une excellente pierre de touche pour reconnaître les innovations des manuscrits indiens. Les innovations de détails dans les actions rituelles sont nombreuses. Une analyse détaillée doit être basée sur la comparaison entre les instructions rituelles des manuscrits iraniens en Pehlevi et celles des Indiens en Gujarati et l'usage moderne en Inde. Bien qu'en Iran la liturgie longue n'ait pas continué, en Inde, la tradition restait encore vivante et montrée en haut degré de coïncidence avec les témoins des manuscrits. On doit mentionner que même parmi la communauté indienne, il y a des différentes traditions rituelles qui présentent différences significatives dans la célébration de la liturgie longue. Mais nos sources d'informations pour ces sujets sont encore très limitées. Le troisième pressurage du Haoma pendant la récitation du Yajna 31-33 nous offre un bon exemple de changements rituels qui se sont produits. Dans la version iranienne, le pressurage du Haoma accompagne toujours la récitation des mots Drujem, de façon qu'en frappant le Haoma, les prêtres frappent aussi la Druj. Ainsi, le Haoma est frappé à trois reprises, à la fin du Yajna 31-4, à la fin du Yajna 32-12, et à la moitié de Yajna 33-4. Dans l'usage moderne, en Inde, on a établi un rapport entre la quatrième strophe de chaque Haïti et les pressurages qui n'existaient pas en Iran. Donc, le frappement de Yajna 32-12 est substitué par un frappement avant la récitation de 32-4. Quelques manuscrits indiens donnent l'instruction de frapper les Haoma au Yajna 31-4 et 33-4. Il passe sous silence Yajna 33-12, sans mentionner non plus les pressurages de Yajna 32-4. Il somme ainsi l'instruction ancienne, mais n'inclut pas non plus la moderne. Dans les récitatifs aussi, il y a des petits changements, bien entendu. La capacité pour créer de nouveaux textes en avestique ayant totalement disparu, souvent les différences se limitent à des erreurs dans les transmissions écrites ou orales qui deviennent canoniques. J'ai déjà noté quelques exemples dans mon article du volume sur la transmission de l'Avesta. On constate aussi des différences dans notre genre, comme dans le nombre de répétitions des prières les plus usuelles. Par exemple, à la fin de Yajna 60, dans la cérémonie standard et dans la solennelle, on récite 4 Ahuna Vairyo et 3 Asembohu. Mais comme nous l'indique le Visperat iranien, si c'est une célébration de Kahambar, on récite 10 fois chaque prière. dans la liturgie iranienne de Bidevdat, on retient la récitation plus simple, dans l'Indien, la variante d'Igahambar. Les différences entre les deux communautés sont aussi fréquentes concernant les dédicaces. C'est la partie la plus variable de la cérémonie et donc spécialement exposée à des variantes, comme en témoignent les diversions des Irosa et les abondantes instructions à cet égard dans le Nirangistan. En Inde, on trouve quelques dédicaces alternatives qu'on ne connaît pas en Iran. Par exemple, c'est le numéro 12 des handouts. Je voudrais attirer votre attention pour finir sur un phénomène intéressant qui affecte la transmission indienne, surtout dans la cérémonie solennelle. Comme on a déjà vu à plusieurs reprises, quelques textes sont utilisés à des passages différents avec des petites variations textuelles. Il semble que parfois, dans la tradition indienne, des associations fautives ont annulé les différences entre des passages parallèles du Vísperat. Dans les cérémonies solennelles, Yajna 63 est substitué par une section de Vísperat. Comme nous avons déjà vu, une partie est une variante du début de Yajna 25, dans laquelle la mention du Haoma, du lait et du grenadier et des offrandes liquides est substituée par Haomena Shaya Hutem. Les Haoma pressurés selon l'agencement. Une différence additionnelle avec Yajna 25 est l'élimination de la mention du bois aromatique et du feu. Ima, imash, chabaodim, chayazamaide, taba, astro, ahurahe, mazdao, putra. Les manuscrits indiens du Bidevdat, pourtant, incluent ces passages, sans doute, par influence de Yajna 25-3. Aucun manuscrit iranien ne montre, par contre, cette addition. Nous trouvons un cas similaire après la récitation de la Spentaman Yuhaiti, Yajna 47, à la fin de la liturgie, après Yajna 68-24. Dans la cérémonie solennelle, on récite la section du Vísperat correspondant à celle qui est récitée après le Spentaman Yugata. Mais puisque à Yajna 68-24, on ne récite pas la gata en entière, mais seulement les premières Haiti, alors, le texte vispéradique ne peut pas être le même. Vísperat 19.3 parlait de la gata et par conséquent est omis dans la récitation de Yajna 68.24. Pourtant, les manuscrits indiens l'incluent fautivement pour l'influence de Vísperat 19. C'est plutôt banal. Mais plus difficile est le cas de la section du Vísperat après la Riaman Isia. Les sections du Vísperat après chaque gata inclus entre la première strophe, qui consiste dans un yazamaïde pour ahuramaïde, pour le texte qui l'accompagne, et avant une strophe avec le yazamaïde pour les éléments constitutifs du texte, le handata, une section exégétique dans laquelle quelques mots-clés sont soulignés. À juger par les témoins des manuscrits indiens, dans la liturgie indienne, les trois strophes exégétiques correspondant au Yajna Haptan Haiti sont récitées après la première strophe de Yajna 24 et avant la strophe exégétique qui correspond à la Riaman Isia et dans laquelle le mot Mizda est souligné. Dans cette occasion, on ne trouve pas de raison automatique pour cet élargissement. Il semble donc que les prêtres indiens ont établi un lien entre l'Ariaman Isia et le Yajna Haptan Haiti et l'ont reflété textuellement par l'addition à la section vispéradique de l'Ariaman Isia des trois strophes exégétiques du Yajna Haptan Haiti. J'espère que ces exemples sont suffisants pour montrer le dynamisme relatif de la liturgie longue. Elle connaît des variantes différentes dans les manuscrits et celles-ci ne sont qu'une réduction d'un nombre de variantes mentionnées dans le Nirangistan. Lorsque nous avons une information suffisante sur la liturgie longue, on perçoit une lente réduction de la variété rituelle. Il semble que les différentes variantes attestées dans les manuscrits, loin d'être des créations tardives, sont les restes d'une variabilité liturgique importante. Cette variabilité comprenait des changements rituels qui concernent surtout la répétition de quelques rites constitutifs de la liturgie, comme l'offrande du dron, l'offrande du haoma et l'offrande d'animal au feu. Ces changements impliquent aussi des changements dans les récitatifs, bien que leur importance se réduit avec la capacité du clergé pour la composition de nouveaux textes avestiques. En tout cas, les officiants zoroastriens montrent une grande capacité pour la création de nouvelles variantes à travers des réarrangements de matériaux fixés. Elle est clairement appréciable dans les différents réarrangements des textes vielabiestiques, bien que l'arrangement qu'il présente dans l'Iyasna est déjà connu au temps de la récitation de Videvya et Visperat, il y avait des présentations alternatives, comme les Sangattas et l'Iyasna Haptanhaiti. On voit aussi comme celui-ci est répété dans les cérémonies solennelles et aussi la Vahistoitikata et l'Ariaman Isya dans les Dohomas. C'est très intéressant que dans cette cérémonie, l'Ustavaiti et l'Spentamanyugata pouvaient intervertir leur position. L'équivalence de ces deux gathas est aussi soulignée par d'autres caractéristiques comme la possibilité de déployer les faisceaux dans l'une ou l'autre ou par les choix possibles entre Yasna 43 et Yasna 47 à la fin de la cérémonie. J'espère aussi avoir montré qu'une évolution est perceptible dans la cérémonie. On a vu qu'elle avait acquis sa forme définitive actuelle à une période où la langue avestique était encore vivante. Pourtant, la cérémonie n'est pas toujours restée identique. Il y a eu évolution, changement entre les liturgies originales et ses versions sassanides et entre les versions sassanides et celles décrites dans les manuscrits. Le rituel s'est transformé, abandon de l'offrande animale au feu, simplification du collège sacerdotal, etc. Et avec lui aussi les récitatifs. En outre, il y a aussi des changements dans les récitatifs qui ne suivent pas nécessairement des changements rituels. Les parties mobiles de la cérémonie, comme les dédicaces ou le nombre de répétitions de quelques prières, sont spécialement sensibles aux changements. Mais il y a aussi des changements d'autre nature. Parfois, ils sont conséquences d'erreurs de transmission qui entrent dans la praxis rituelle. Parfois, des associations inappropriées entre différentes variantes du même texte et parfois aussi les résultats des mouvements exégétiques. Cela est ce que nous pouvons percevoir par la comparaison des informations fragmentaires d'une langue stan avec nos manuscrits et aussi à travers la comparaison entre les manuscrits indiens et iraniens. Malgré les contacts entre les deux communautés et la proximité temporale des deux traditions, on perçoit d'évidentes différences. Nos manuscrits s'adaptent aux changements et les reflètent. Parfois, ils sont même la cause de ces changements. Ils reproduisent la liturgie que l'on célèbre au moment où ils sont copiés. Donc, la reconstruction de la liturgie sassanide seulement en fonction des manuscrits s'avère être une tâche impossible. La comparaison avec les Nerangestan nous aidera dans la reconstruction, mais elle restera toujours pleine d'incertitudes. Les cérémonies que nous pouvons éditer sont les cérémonies attestées dans les manuscrits dans toute sa variété. Nous savons qu'elles sont très semblables aux cérémonies célébrées à l'époque sassanide et auparavant, mais pas identiques. Cela nous impose quelques limitations pour l'horizon temporal de notre édition, que l'on devrait considérer aussi quand on parle des problèmes linguistiques. Il serait anachronique, par exemple, d'éditer la version de la liturgie courante au XVIIIe siècle dans sa récitation sassanide, si on peut la retracer. C'est le problème que j'aborderai dans la dernière conférence. Les changements du récitatif de la liturgie et quelles sont les différentes possibilités que nous avons actuellement pour prendre des décisions éditoriales. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.